Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La toute première réunion de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle fondé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, eut lieu dans un restaurant, Le Vrai Gascon, situé rue du Bac à Paris. C'est donc d'emblée, sous le signe de la bonne chère, que le groupe se plaçait, tradition qui sera d'ailleurs conservée pour les réunions ultérieures du groupe jusqu'à aujourd'hui. Pour évoquer les liens ancestraux entre l'art culinaire et l'Oulipo, on pourrait donc commencer par là. On pourrait mentionner également que l'une des contraintes inventées par ses membres consiste à jouer avec le langage cuit, expression empruntée à Robert Desnos et qui désigne un ensemble d'énoncés familiers à tous, comme les proverbes ou les dictons par exemple. Les Oulipiens aiment à manipuler le langage cuit pour inventer de nouveaux énoncés du type « pierre qui roule mène à Rome » ou encore « couper l'herbe devant les bœufs » pour ne citer que deux exemples parmi une infinité de possibles. On pourra aussi songer aux 81 fiches cuisine à l'usage des débutants de Georges Perec, aux repas colorés que Madame Moreau offre à ses invités dans la vie mode d'emploi, ou encore au fait que Noël Arnaud et Harry Matthews fondèrent en 1990 l'Oulipo, l'ouvroir de cuisine potentielle. Bref, il fallait bien qu'un jour, René Elkaïm Bollinger, pour son émission de bouche à oreille sur France Culture, se penche sur les liens entre l'Oulipo et les fourneaux. Ce fut chose faite le 29 mars 1998, en la délicieuse compagnie de Jacques Roubaud et Marcel Benabou.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, l'Oulipo au fourneau.
Pourquoi l'Oulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle, s'occupe-t-il de fourneau ? Parce que il est évident qu'il y a une parenté très nette entre la cuisine que l'on fait dans les fourneaux et la cuisine littéraire que fait l'Oulipo. L'Oulipo s'occupe de mots, la cuisine s'occupe de mets, des mots aux mets. Il n'y a qu'une voyelle, et en indo-européen d'ailleurs, l'alternance vocalique va du O au E. Et donc, en s'occupant des mots et en s'occupant des mets, l'Oulipo s'occupe exactement de la même chose.
La Linzer torte dans la mer morte prend une teinte caramel. Mais en Alsace, c'est la potasse qui lui donne la couleur bien.
L'Oulipo au fourneau, c'est par exemple, entre quelques autres, Jacques Roubaud qu'on vient d'entendre chanter et Marcel Benabou travaillant sur le gustatif, les mots de la cuisine et la cuisine des mots, un mijotage du langage. Huysmans, dans À rebours, avait utilisé la gastronomie chromatique, un repas tout noir ou tout jaune. Les tenants de l'Oulipo savourent les locutions indigestes, les menus de cantine et les sonates de bar. Avec l'Oulipo au piano, on écoute la musique des saveurs et des odeurs entre le frisson de la confiture d'Azerolles, le festin de la Genèse et les menus de Georges Perec. Au sommaire de bouche à oreille, juste deux mots, cuit et salsifie. Reportage, Marcel Benabou et Jacques Roubaud. Comment cuire la prose ? Comment le goûtez-vous ? Micro-ondes. Juste deux mots.
Le mot « cuit ». Parce que j'aime le langage cuit. Vous prenez les deux expressions garder une poire pour la soif et avoir la peur au ventre. Et avec ces deux expressions, vous faites garder une poire au ventre, avec le sens de ne pas réussir à se débarrasser d'un secret encombrant.
Jacques Roubaud, juste un mot de cuisine.
Un mot de cuisine, salsifie. Salsifie parce que quand on a beaucoup travaillé en sur les contraintes, on nous dit que c'est suffisant, donc ça suffit.
Reportage. Tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgités au cours de l'année 1974. 9 bouillons de bœuf, un potage au concombre glacé, une soupe aux moules, 2 andouilles de guéméné, une andouillette engelée, une charcuterie italienne, un cervelas, 4 charcutailles, une copa, 3 cochonailles, une figatelli, un foie gras, un fromage de tête, une hure de porc, 5 jambons de Parme, 8 pâtés, un pâté de canard, un pâté de foie gras truffé, un pâté en croûte, un pâté grand-mère, un pâté de grive. Georges Perec.
Alors, dans votre travail oulipien, vous avez rencontré d'autres mots de la cuisine et d'autres oulipiens au fourneau. Alors, il y avait Perec.
Perec est un homme qui s'est beaucoup intéressé à la cuisine et qui, parmi les oulipiens, Perec est un de ceux qui faisaient la cuisine.
Mais oui.
Hein? Et pendant les...
C'est-à-dire?
Mais pendant les quelques années où nous sommes allés, où les réunions de l'Oulipo se sont tenues chez Perec, eh bien Perec faisait lui-même, il composait les menus et il fabriquait, hein, il cuisinait pour nous. Et il cuisinait très bien.
Qu'est-ce qu'il cuisinait?
Il faisait très bien les pâtes au beurre. Et surtout, il faisait ça avec un soin absolument incroyable.
Le même soin qu'il portait à la confection des cuisines de texte.
Ouais.
Alors, la cuisine du texte, on y vient justement. Il y a une tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgité au cours de l'année 1974.
Le projet de Perec n'était pas de faire quelque chose de gastronomie. Le projet de Perec était, comme toujours chez lui, de saturer quelque chose, c'est-à-dire de faire une liste qui soit aussi exhaustive que possible. Il a dit par la suite que même cette liste-là n'était pas exhaustive, mais il a essayé de le faire.
Ça appartient à l'art de la liste.
C'est la liste.
C'est un des grands.
C'est un poème.
C'est un inventaire.
C'est un poème.
C'est un poème.
C'est un poème qui est un poème liste. Voilà. Et la forme de la liste est un.
C'est un superbe poème. De même que chez Homère, il y a la liste, il y a le catalogue des vaisseaux. Eh bien, chez Perec, il y a la liste des choses qu'il a ingurgitées pendant l'année 74.
Mais il y a un classement.
Bien, il y a un classement, bien sûr.
Mais alors, est-ce que le classement fait partie du poème?
C'est la forme du poème. Un poème ne peut pas être simplement une suite de mots. Il faut qu'il ait une forme. Là, la forme, c'est celle, en fait, des menus classiques. Hein, on commence par les potages, les entrées, etc., les poissons. Enfin, il a pris un menu du 19e, hein, un de ces menus où on a tous les éléments, et il a donner tous ces éléments comme si c'était un seul repas qu'il avait fait tout au long de l'année. Donc il a mis toutes les choses ensemble à leur place.
2 œufs engelés, 2 œufs brouillés, 4 omelettes, une espèce d'omelette.
Bien, quand on a fini la lecture de ce poème, on n'a plus faim.
Oui, mais il commence par 1, 2.
Oui. Non, mais on apprend des quantités de choses.
1, 2, 4.
Oui.
Et puis l'omelette. D'abord les œufs.
Oui, c'est ça. D'abord les œufs seuls, les différentes façons de les préparer. Ensuite, on passe aux œufs ensemble.
Et dans chaque rubrique, il prend soin de décliner toutes les variétés.
Les variétés.
Et alors, Jacques Roubaud, vous qui êtes mathématicien, je veux dire, les chiffres, les nombres sont importants quand même.
Très, très important, et probablement il y a certainement un jeu aussi sur les nombres.
Une bavette, 3 bavettes à l'échalote, 10 steaks, 2 steaks au poivre, 3 complets, un rhum steak à la moutarde, 5 rôtis de bœuf, 2 côtes de bœuf, 2 pièces de bœuf, 3 grillades de bœuf, 2 chateaubriands, 1 steak tartare.
Alors, il y a des recettes.
Ah, il y a les recettes.
Oh là, alors, oui, parlons des recettes.
Alors, Pérec avait un goût tout à fait particulier pour la combinatoire. Alors, là, c'est seulement 81 fiches cuisine à l'usage des débutants. Et en fait, vous avez chaque fois trois choix possibles. Alors, par exemple, au début, c'est lever à cru les filets de 2 belles soles. Ou bien tartiner généreusement 2 jeunes lapreaux de moutarde forte. Ou bien escaloper finement 4 riz de veau que vous aurez préalablement fait dégorger dans une eau légèrement citronnée. Alors à partir de ces 3 points de départ, vous allez avoir des quantités de possibilités. Donc il a pris les formules de livres de cuisine. Ces formules, elles existent en principe, elles appartiennent à une recette particulière et il en a fait des espèces de modèles et d'éléments que l'on met, c'est le cas de le dire, à toutes les sauces.
L'idéal du croissant, et il s'agit bien entendu du croissant parisien, le croissant provincial dans toutes les villes où je l'ai essayé, est un désastre. Le croissant qu'on pourrait désigner comme croissant au beurre archétypal présente les caractéristiques suivantes. Losange très allongé, arrondi au bout mais de corps à peu près droit, doré, dodu, pas trop cuit, pas trop blanc et farineux, tachant les doigts à travers le papier pelure qui l'enveloppe, ou plutôt le soutient, de chaleur récente, il est sorti du four il y a peu, il n'est pas encore refroidi. Jacques Roubaud.
C'est une découverte que je pense avoir faite après l'examen d'un certain nombre de croissants au beurre dans beaucoup de boulangeries. Et donc je suis arrivé à trouver ce que c'est qu'un croissant parfait. Un croissant parfait, on doit pouvoir le comparer à un homard. Et quand le homard est bien cuit, quand on détache, on tire sur les morceaux, se détache, et en entraînant la chair intérieure du crustacé. Et bien de la même manière, en considérant qu'un croissant au beurre est une sorte de homard stylisé, il a un corps central, il a 2 pattes, qui sont de chaque côté, il faut tirer sur les pattes et le croissant doit être suffisamment moelleux pour que l'intérieur du croissant vienne, sans que le croissant se défasse complètement. Voilà, ça c'est une loi importante.
Genèse culinaire. Au commensal, la diffa créa la ciguë et la terrine. Or, la terrine était vague et vide. Les ténia couvraient l'abricot et l'estomac de la diffa planait sur les ébriétés. La diffa dit que le linge soit, et le linge fut. La diffa vit que le linge était bon, et la diffa sépara le linge et les ténia. La diffa appela le linge jujube et les ténia nutrition. Il y eut un soja et il y eut une maturation, premier jujube. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour.
Alors comment on passe, Marcel Benabou, de l'un à l'autre?
On passe de l'un à l'autre de la manière la plus simple qui soit. On se munit donc d'une Bible de Jérusalem, qui est celle que j'avais sous la main. On se munit d'un petit Larousse illustré 1979, qui est celui que j'avais sous la main. Et on prend tous les substantifs de la Genèse, l'un après l'autre, on se transporte à son dictionnaire et on prend dans la suite du mot qu'on traite le premier qui est un rapport proche ou lointain, avec la cuisine. Et donc, le premier mot après commencement qui ait un rapport un peu lointain avec la cuisine, c'est le mot commensal. Le premier mot après Dieu qui ait un rapport un peu lointain avec la cuisine, c'est le mot diffa, qui veut dire un festin en arabe, et qui est dans le Larousse de 1979. Et ainsi de suite. Le premier mot qui suit ciel et qui est un peu de rapport avec la nourriture, c'est la ciguë, et celui qui suit terre, c'est la terrine.
L'azrole, comme la plupart des gelées, est imprévisible, capricieuse, difficile, impressionnable, évasive, contrariante, secrète. Le liquide rose-roux, chargé de suc et de sucre, qui tourne roussoyant autour de la cuillère de bois dans la bassine, teintée de cuivre en épaisseur, de rose thé sur une assiette, d'une couleur entre la pomme gelée et le coin, le précieux liquide, couvert d'écume par ébullition lente, ne gèle qu'à son heure. Jacques Roubaud.
C'est un fruit méditerranéen qu'on trouve sur tout le pourtour méditerranéen. Ça se présente comme de... Ça ressemble à de petites pommes avec une chair jaune-verte et un noyau très, très important en deux parties, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de chair. Et ça a un petit goût acidulé qui n'est pas désagréable, mais ce n'est pas vraiment un grand fruit qu'on peut manger comme ça. Et donc, dans la tradition méditerranéenne, on en fait soit du sirop, soit d'une sorte de pâte, soit quelquefois alors de la gelée. J'ai le souvenir donc de cette gelée d'azerolle que faisait ma grand-mère et ensuite ma mère dans mon enfance. Et c'est quelque chose qui est pratiquement perdu pour la bonne raison que les azeroliers n'étant pas des arbres ayant beaucoup de rentabilité du point de vue, on ne va pas vendre les azeroles sur le marché. Quelquefois, on en trouve à Carcassonne, mais c'est très rare. Donc, on les abat, on ne les renouvelle pas, donc ils disparaissent.
La gelée d'azerolles, vous dites que c'est un moment rassurant?
Bien, parce que c'est une très très belle gelée, que l'on a obtenue à partir de grands efforts, parce qu'elle est très capricieuse, il est très difficile de la réussir. Hein. Il faut s'y prendre avec beaucoup de précautions. Et quand on dispose comme ça dans son assiette d'un bloc de gelée d'azerolles à la très belle couleur, une couleur rosée, une couleur un peu orange, un peu rose, très belle, une texture très ferme, eh bien, c'est un moment par exemple, de l'après-midi ou un moment du matin qui est très agréable et très rassurant.
Est-ce qu'il y a une grand-mère gélifiante ou une mère gélifiante?
Mais probablement quand on est enfant, bien entendu, parce que ça c'est un peu rare et ça va venir de la famille, dans la grand-mère qui est capable de faire des gelées.
Gélifiante, c'est quand même quelque chose d'audacieux.
d'appeler une grand-mère gélifiante, oui. Mais c'est à la fois...
C'est gélifactrice, non pas gélifiante.
Oui, mais il y a ça aussi, parce que j'avais une grand-mère très autoritaire. C'est là que se passe le mystère de l'azerolle, le mystère de la gelée, qui est d'ailleurs général pour toutes les gelées, mais qui est un moment, il y a un moment où la gelée va pouvoir geler, et si on ne l'atteint pas, ça reste du liquide, et si on le dépasse, ça devient un sirop. Mais il y a un tout petit moment dans lequel qu'il faut savoir saisir et pour arrêter la cuisson. Et ceci, on peut déterminer ce moment par ce qu'on appelle le test du frisson, qui est quelque chose d'extraordinaire. On verse une partie du liquide dans une soucoupe que l'on incline légèrement. La façon dont ça va couler pour que ça fasse geler, c'est le frisson du début de la brise qui va sur un lac.
Et alors vous, évidemment, vous rapprochez le test du frisson pour la gelée du frisson de la prose.
Et oui,
alors je vais lire le passage parce que c'est quand même important. Et je m'imagine un peu la préparation de la prose comme celle de la gelée d'Azerolles. Les fruits sont les instants, la cuisson la mémoire, et dans la voix qui incline le déroulement des phrases, je guette avec impatience, inquiétude, incertitude, l'apparition si hasardeuse du frisson. Alors, le rapport entre la gelée et la prose.
Bien, c'est un rapport de fabrication, de composition de quelque chose qui ensuite va être consommé par le lecteur et qui bien entendu, doit avoir son goût. C'est vrai qu'il y a des grands moments de roman, des grands moments de prose qui donnent aussi un petit peu ce frisson dans le dos. Alors ça, là, c'est le frisson qui saisit le lecteur, c'est pas le frisson qui saisit la gelée.
C'est ça la prose ?
Oui, une bonne prose bien nette. Hein, c'est ça, une prose nette qui n'est pas...
Elle n'est pas tremblante alors ?
Qui n'est pas trop tremblante, oui. Pas trop sentimentale, disons. On peut tomber dans un excès qui apparentera plutôt à ce moment-là la prose au sirop qu'à la gelée.
Et moi seule, dans cette ville dont je découvrais les rues sans odeur, les fruits sans goût et les samedis sans soleil, trempant machinalement dans la moutarde les frites tièdes et cartonneuses qui débordaient sur mon plateau repas, je cherchais à retrouver, je ne sais où au fond de mon palais, un peu de la saveur des pommes de terre maternelles que 15 heures de cuisson à feu très doux, dans un mélange de viande, de pois chiches, de blé et d'aromates, avait gonflé d'une sauce épaisse et pourtant fluide à la belle couleur de caramel. Marcel Benabou.
Vous savez que quand on quitte une culture, une civilisation pour aller dans une autre, ce qu'on perd en dernier, ce sont les habitudes alimentaires, ce sont les goûts alimentaires. Et donc, au cours de mes premières années à Paris, il y a de cela maintenant plus de 42 ans, j'arrivais donc adolescent du Maroc et au fond je découvrais complètement un autre univers culinaire et donc j'ai vécu comme ça sur deux plans en permanence quand je mangeais des frites dégueulasses qui s'étalaient sur mon plateau repas, bah pour les supporter il me fallait imaginer que j'étais en train de manger en famille le samedi après-midi, enfin le samedi à midi, cette espèce de plat un peu particulier que les juifs du Maroc mangent le samedi à midi qui s'appelle la dafina et qui est tout à fait délicieux quand on a été habitué à le trouver délicieux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Pour moi, ça a un goût absolument exquis. La dafina, ça demande une demi-journée de préparation et 13 heures de cuisson. 13 heures de cuisson à feu doux.
Et ce qui occupait aussitôt ma pensée, c'était les beignets brûlants, légers, volumineux et craquants de certains petits matins de septembre.
Ah, le matin est très important. Si vous mangez du beignet dans la journée, c'est comme le mauvais croissant de Roubaud. Là, ça n'a aucun intérêt. Le beignet, ça doit se manger à l'aube, quand on a ou bien dormi ou au contraire passé une nuit à faire des quantités de choses très différentes, qui peuvent être des choses très pieuses ou des choses pas pieuses du tout. Et à 6 heures du matin, il y a le petit marchand de beignets qui vient juste d'ouvrir sa petite boutique et il vous met, il a préparé sa pâte et il vous sort votre beignet. Alors là, c'est quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue. Hein. On ne peut absolument pas décrire cela tellement c'est bon. Même chose, j'ai été habitué. Toute notre pâtisserie au Maroc était une pâtisserie aux amandes, à base d'amandes. Mais les amandes, on les pilait nous-mêmes. Hein. La pâte d'amande, on la fabriquait avec des amandes. J'ai découvert cette chose stupéfiante à Paris, c'est que la pâte d'amande était faite à partir de cacahuètes ou à partir de je ne sais quoi, et que ça avait ce goût absolument répugnant quand on s'attend à manger de l'amande pure et qu'on tombe sur un goût de cacahuète rance. Je vous assure que le haut le cœur, je l'ai encore.
C'est dans ce livre que j'appris à lire l'hébreu. J'eus quelque mal à entrer dans le système des traits et des points qui permettent de noter les voyelles, d'autant plus que certaines de ces voyelles ne manquaient finalement pas de charme. J'aimais bien le hérik parce qu'il ressemblait à un minuscule pois chiche et le ségol parce qu'avec ses trois grains, il était l'amorce d'une petite grappe de raisin.
On peut aussi parler de celui qui ressemble à un brin de menthe, qui est aussi très important. Mais ces caractères hébraïques, ils sont liés pour moi à des souvenirs très, très tendres, puisque c'est ma mère qui m'a appris l'alphabet hébraïque, et elle me l'a appris précisément en prenant toujours comme référence pour me faire reconnaître les caractères, en prenant donc des objets que je connaissais, qui m'étaient chers, donc les pois chiches, la menthe, la grappe de raisin. Et en fait, ça a remplacé ce qui se fait, ce dont j'ai appris plus tard que ça se faisait ailleurs, dans d'autres sphères du judaïsme, qui est d'apprendre aux enfants à l'alphabet avec des lettres qu'on écrit au miel sur une pâte et ensuite qu'on fait lécher le miel et comme ça l'alphabet entre par la douceur.
Autrement dit, vous avez appris à lécher les mots.
J'ai appris à lécher les mots, tout à fait.
Et à les savourer.
Et ça fait partie précisément de tout ce qui m'a entraîné à devenir un jour un oulipien.
Jacques Roubaud, vous avez fait des menus pour la cantine, pour les cantines.
Oui, c'était une commande dans l'Académie de Strasbourg, un certain nombre de menus pour des cantines scolaires. Les élèves du primaire, en allant manger leur repas, avaient sur leur plateau ces menus. Alors, il y a par exemple le menu du boa. Monsieur le boa, que mangerez-vous aujourd'hui? Des petits poas? Poas. Des noas? Pouah, pouah. Alors vous voulez quoi? Un turbo, ah, un jambonneau, ah, un rabot, un robot, ah, un lavabo, un escabeau, un koala, ah, ah, et encore quoi? Troa, foa, gras, doa, premier choa, je vois. Et vous boirez un cocoa avec un doa de vodka bien froid. Voilà, au revoir.
Comment le goûtez-vous? Menu sadique d'un non-oulipien.
Menu sadique. Crème fouettée, fromage battu, champagne frappé, pois cassé, amandes pilées, citron pressé. Crème renversée, poire tapée, pâte brisée. Crème brûlée, œufs pochés, crêpes flambées. Alain Chevrier.
Micro-ondes. On peut faire son marché chez les oulipiens avec de Georges Perec au seuil l'infraordinaire et pensée classée chez Hachette. De Paul Fournel, clé pour la littérature potentielle chez De Noël. De Hervé Letellier, Joconde jusqu'à 10 au Castor Astral. Le menu sadique de Alain Chevrier était extrait de la revue Papil aux éditions Le Temps qu'il fait. Papil, une revue goûteuse en relation avec les bibliothèques gourmandes. De bouche à oreille. Par René Caïm Bollinger. Aujourd'hui, l'Oulipo au fourneau, avec Jacques Roubaud et Marcel Benabour. Mixage, Monique Pratt, Mireille François. Réalisation, Françoise Camard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 mars 1998. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.